Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Merci de vous réveiller avec France Culture. Nous sommes le lundi 7 décembre 2015. Un autre jour est possible, votre réveil culturel. C'est tous les jours de la semaine avec une tête chercheuse, avec cette semaine l'historien du chocolat, Nikita Harvitch, qui va nous raconter à partir d'aujourd'hui l'histoire du chocolat depuis l'Amérique latine jusqu'à Noël de cette année, comment cette histoire a évolué au fil des siècles et des continents. Le chocolat, toute une histoire, c'est dans un instant. Et puis, en deuxième partie, je serai avec Isabelle Bastien-Duplex pour parler de l'exposition Claire Bretéchet qui a lieu en ce moment au Centre Pompidou. Nous écouterons d'ailleurs un extrait d'une interview que Claire Bretéchet m'avait accordée en 2006. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible. Le chocolat, toute une histoire, par Nikita Harvitch. Bonjour Nikita Harvitch.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des civilisations d'Amérique latine et membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie. Vous avez publié en 1992 un ouvrage de référence, actualisé ensuite, Histoire du chocolat, et depuis quelques semaines, on peut lire la première encyclopédie du chocolat et de la confiserie que vous avez dirigée. Et toute cette semaine, vous allez nous raconter l'histoire du chocolat. Aujourd'hui, premier épisode, le fruit originel. Comment toute cette histoire commence, Nikita Harvitch ?
Eh bien, elle commence par l'observation que les premiers habitants de l'Amérique centrale ont fait des animaux qui avaient l'air de se régaler en mangeant le fruit bizarre d'un arbre encore plus bizarre, le cacaoyer en l'occurrence, et avaient l'air de trouver que c'était absolument délicieux. Et finalement, c'est en voyant les animaux que l'homme a, de son côté, commencé à goûter aux fruits de ce cacaoyer, à cette grosse cabosse à l'intérieur desquelles se trouvent des fèves entourées d'une pulpe gélatineuse. Au départ, c'est la pulpe qui était consommée et qui peut toujours être consommée à l'heure actuelle. Malheureusement, elle ne se conserve pas, mais on peut en faire une boisson absolument délicieuse. Et le jour où on arrivera à la conserver, là, vous aurez une nouvelle boisson sur le marché. Alors, c'est en voyant ensuite cette amande que ses habitants se sont demandé ce qu'on pourrait en faire. Le goût en est très amer, mais en la préparant, d'une certaine manière, on pouvait en faire une poudre qui, délayée dans de l'eau et avec des épices, donnait une boisson tout à fait revigorante. Alors, selon l'évidence archéologique, les premiers à avoir domestiqué la fève de cacao pour en faire du chocolat, il semblerait que ce soit les Olmèques. Nous parlons à peu près 1000 à 1500 avant Jésus-Christ. Le cacaoyer n'est pas originaire d'Amérique centrale, il serait plutôt originaire du bassin de l'Amazone et on n'est pas encore très sûr par quels moyens il serait parvenu de son berceau d'origine jusqu'en Amérique centrale. Mais c'est en Amérique centrale que sa culture a été avérée pour la première fois, justement aux environs de 1000 à 1500 avant Jésus-Christ. C'est l'époque des Olmecs, c'est la première grande civilisation d'Amérique centrale. Les Mayas en sont les héritiers, en quelque sorte, mais ils sont postérieurs. Disons que les Mayas, en gros, c'est 500 avant jusqu'à 800-900 après Jésus-Christ. Et ce sont eux qui vont hériter cette tradition et véritablement faire de la boisson de cacao une boisson rituelle, une boisson incorporée au panthéon, à l'imaginaire, et qui servira finalement de monnaie d'échange aussi, parce que la fève de cacao sera utilisée en tant que monnaie d'échange dans toute l'Amérique centrale.
Alors, vous commencez votre histoire du chocolat, la première version, celle parue en 1992, Nikita Harvitch, en nous parlant d'un mythe, d'un dieu barbu au visage laid, qui, parce qu'il possédait toutes les richesses, avait aussi les arbres de cacao. De qui s'agit-il et pourquoi ce mythe est-il important?
Alors, vous faites référence au mythe du dieu Quetzalcoatl, qui est en fait un dieu qui n'est pas maya à l'origine, il est toltec, c'est-à-dire du Mexique central, alors que les mayas sont plutôt le Mexique, l'actuel Mexique du Sud et le Guatemala. Mais c'est un dieu très populaire dans les croyances traditionnelles des populations amérindiennes d'Amérique centrale, parce que il est le dieu de la richesse, le dieu qui donne les bienfaits à l'humanité, le maïs, différentes cultures, dont le cacaoyer. Et donc le mythe de Quetzalcoatl est rattaché, pour ainsi dire, à la richesse, à l'âge d'or dont le cacao est une émanation. Et aussi parce que le mythe de Quetzalcoatl va acquérir une dimension. La légende veut que Quetzalcoatl, enivré par la potion d'un magicien qui lui voulait du mal, ait perdu la tête et détruit toutes ses richesses et soit parti sur un radeau vers le soleil levant, c'est-à-dire vers l'est, en disant qu'il reviendrait un jour pour reprendre son royaume. Et quand les Espagnols sont arrivés à la fin du XVe siècle, en fait au Mexique au début du XVIe siècle, ils ont été pris pour ce Quetzalcoatl, qui était barbu dans les représentations qu'on a de lui. Il était barbu avec un visage long, il n'avait pas les traits amérindiens, et qu'il serait donc venu réclamer son royaume. Est-ce que c'est une légende inventée a posteriori par les Espagnols? Ça, on ne le sait pas trop. Mais il est certain que Quetzalcoatl a été un mythe rattaché pendant fort longtemps au cacao et au chocolat en termes de bienfaits pour l'humanité.
Alors, avant la découverte de l'Amérique, avant que le cacao ne traverse l'Atlantique, ce sera notre prochain chapitre, épisode de demain, parlons de la place du cacao chez les Mayas et chez les Aztèques, si vous voulez bien, Nikita Harvitch.
Volontiers. Alors, la première chose qu'il faut savoir pour le cacao, c'est que, enfin pour le chocolat, boisson issue du cacao, c'est que c'est une boisson revigorante, une boisson qui permet de parcourir de longues distances sans avoir besoin de se sustenter. Et c'est ce qui a fait que, au départ, le cacao était une boisson particulièrement prisée par les marchands, la caste des marchands mayas, qui parcouraient le plus souvent à pied, parfois en bateau, toute la surface, l'étendue de l'Amérique centrale, et donc utiliser le cacao comme, je dirais, comme boisson...
Énergisante, oui.
Boisson à tout faire, boisson ouais. Revigorante. Et ce qui a fait que le cacao a pris très rapidement une place dans le panthéon maya, en particulier avec le dieu Ekchua, qui était le dieu du commerce et qui en fait est devenu le dieu protecteur du cacao et des marchands mayas en particulier. Également, le fait que la fève de cacao ait été utilisée comme monnaie, et donc comme monnaie d'échange pratiquement du Mexique central jusqu'à l'isthme de Panama, en faisait une denrée précieuse. Et donc, au cacao et au chocolat qui en est issu ont été rattachées des vertus, disons, particulières. Ce n'était pas un breuvage comme les autres. Et dans le monde maya, la consommation de cacao était toujours liée aux grands rites de l'existence, les naissances, les mariages, les morts, et dans une connotation qui est restée à peu près intacte aujourd'hui. On boit encore dans les populations mayas d'Amérique centrale le cacao dans les grandes occasions de la vie. Les Aztèques, qui sont venus du nord du Mexique et qui ont donc conquis les territoires mayas au XIIIe siècle, se sont vite aperçus qu'il y avait cette monnaie d'échange un peu étrange et ils ont découvert le breuvage de cacao qu'ils ont trouvé, je suppose, à leur goût et donc ont incorporé le cacao et enfin la fève de cacao et le chocolat dans leurs usages et dans leurs coutumes. Peut-être avec un aspect rituel, disons, moins prononcé que les Mayas. On consommait du cacao régulièrement sur les marchés du Mexique central. Mais enfin, comme c'était une denrée rare et précieuse et à laquelle était rattachée, disons, toute une vision rituelle de la vie, c'était une boisson en principe réservée soit à une élite, soit pour les occasions spéciales de la vie.
Merci beaucoup, Nikita Arvich. On se retrouve demain. Et demain, on va voir comment le cacao, en traversant l'Atlantique, va connaître un nouvel essor, une nouvelle histoire. À demain, Nikita Arvich.
Back in those biblical days, Eve learned to shake like a snake. She was banished from Eden for days for doing the chocolate shake. Venus de Milo had charms. She gave the Greeks quite a break. Now that poor gal is minus her arms from doing the chocolate shake. It was under an African sun that Stanley met old Livingston. While the gals shook their fruit, he blew on his flute, zigging the zag while en route. Zoot! They introduced a new thrill that killed them on old Sugar Hill. Then it spread like
France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui est Isabelle Bastien-Duplex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Claire Bretéchet qui a lieu en ce moment et ce jusqu'au 8 février à la bibliothèque du Centre Pompidou. Je vous propose d'abord, avant de parler de cette exposition, d'écouter Claire Bretéchet parlant de son travail. C'était en 2006, j'avais l'extrême privilège de la recevoir dans le cadre d'une émission qui avait pour titre Le choix des livres, ouais, c'était bien ça. Claire Bretéchet qui m'expliquait, parce que je lui avais posé la question, est-ce que elle, qui était une des premières femmes à être une dessinatrice de presse, à faire de la bande dessinée, à travailler avec l'actualité, est-ce qu'elle était plutôt bien reçu à ses débuts par les journalistes, par ses confrères, et apparemment oui.
J'ai jamais été mal reçu dans une rédaction. Alors j'arrive avec mon petit dossier, et puis ça c'était quand je faisais des petits dessins à droite et à gauche, je savais pas encore exactement quoi faire, et quand j'ai fait vraiment de la BD, j'envoyais par la poste. Ma toute première, je l'envoyais par la poste à Spirou.
Pourquoi ?
Ben parce que pour ne pas y aller moi-même.
Pour ne pas être là et voir la réaction.
Pour ne pas aller à Marcinelle. non, voilà.
La rencontre avec René Goscinny, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la bande dessinée.
Il n'y avait pas, du tout.
Alors comment ça s'est passé ?
On parle toujours de René Goscinny comme d'une espèce d'ange qui a sauvé les dessinateurs. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. C'était aussi bien la rencontre avec Jean Daniel. Il y a une succession de rencontres. Je rencontre des gens très sympathiques à Bayard Presse avant. À Spirou ensuite, et puis ensuite à Pilote, et puis ensuite à l'Obs, voilà.
Est-ce qu'on peut dire que cette époque-là, c'était une époque assez riche
Je ne suis pas sûre, j'ai l'impression qu'il y a plus de choses maintenant. Est-ce que je me trompe c'est très difficile, je ne sais pas quoi vous répondre.
Alors, le Nouvel Observateur, c'est-à-dire cette rencontre avec Jean Daniel, vous en souvenez, je suppose, Claire Poitéché. Alors, comment ça s'est passé?
J'étais très impressionnée, parce que c'était une presse divine, si vous voulez. Quand on venait de la BD, c'était la grande presse, c'était la presse d'opinion, c'était la presse chic, c'était, etc. Donc, je me demandais ce qu'il voulait que je fasse. Je me sentais tout à fait indigne de cet honneur. Et il m'a dit de faire ce que je voulais.
Bon alors, Agrippine, Cellulite, Les Frustrés, est-ce qu'à chaque fois, il y a une idée, il y a un événement, il y a un fait de société qui déclenche en vous, Claire Bretéché, cette envie d'inventer des personnages qui auront vraiment marqué quand même la France des années 70 et 80?
Oh, Cellulite, c'était parce que c'est très agréable de dessiner du Moyen-Âge. Les enfants adorent le Moyen-Âge, j'étais encore un petit peu jeune. Et donc, vous faites des créneaux, c'est facile à faire. Et puis, bon, j'ai fait un personnage féminin parce que ça m'est pas venu à l'esprit de ne pas faire un personnage féminin. C'est un personnage masculin, je ne sais pas le faire manœuvrer. Donc voilà.
Et pour les bobos?
Quels bobos?
Comme les frustrés et tout ça?
C'était pas des bobos, c'était plutôt des gauchistes. Hein. C'est pas la même chose.
Oui, mais qui allait basculer en sortant.
Ah, ils ont basculé après. Quoique, moi, j'aime pas trop le mot bobo. Ça recouvre tellement de choses que ça veut pratiquement plus rien dire. Mais bref, enfin, si vous voulez, les bobos.
Et aujourd'hui, alors vous dites, c'est quand même assez étonnant, qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça ne vous inspire pas des personnages?
Mais l'actualité ne m'a jamais inspiré du tout. Si vous voulez, je suis sensible à une ambiance, aux préoccupations des gens, aux contradictions que ça entraîne, etc. etc. C'est ça qui est amusant. Agrippine, c'était l'emmerdeuse à qui tout est dû. Parce qu'elle est dans une famille apparemment sans problème matériel énorme.
Ouais, Paris 16e.
Non, 18e, pardon.
Ah, 18e.
Elle est dans le 18e. À un moment donné, j'étais entourée de gens qui étaient épatés par leurs enfants, par leurs ados, mais qui en parlaient. Mais ils étaient tous des génies. Et je me suis aperçue que c'était des petits cons absolument épouvantables. Donc, ça m'a motivée. D'abord énervée, ensuite motivée, ou l'inverse. Je pensais simplement à l'ennui d'avoir des ados chez soi.
Claire Bretéché, avez-vous déjà eu l'extra privilège d'être censurée?
Jamais. Parce que je suis toujours assez soft.
Ouais.
C'est pour ça.
Vous auriez pu à un certain moment devenir celle qui représente les femmes en France, puisque vous étiez une des rares bédéistes femmes. Ouais. Vous avez scrupuleusement refusé de jouer ce rôle.
Oui, parce que je suis... Le militantisme m'énerve à un point rare et je trouve que les groupes de militants sont pris séparément. Les militants peuvent être sympathiques, mais quand ils sont ensemble, c'est une tragédie.
Est-ce que vous lisez d'autres BD? Est-ce que vous avez des auteurs de BD favoris?
Ah oui. Moi, je suis une grande fan de Larsenet, comme tout le monde. Hein. Larsenet, toute la bande Sfar, Blin, compagnie. Et puis, par ailleurs, évidemment, Pétillon, fameux pote.
Alors aujourd'hui, Claire Bretéché, dites-nous, est-ce que vous nous préparez une nouvelle bande dessinée? Est-ce que vous allez...
Mais oui, bien sûr, mais là je suis en stage de gestation.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, avant de s'y mettre, il faut savoir ce qu'on va mettre.
Et alors, comment ça se passe?
Non, moi il faut que j'ai un petit peu quelque chose en tête.
Voilà. Alors c'est pas la politique, vous avez dit, c'est les ambiances qui vous inspirent.
Oui.
Alors justement, s'il fallait parler de l'ambiance d'aujourd'hui, Claire Bretéché, autour de vous?
Bah, écoutez, l'ambiance, ça parle que des élections, donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Enfin, ça a un intérêt limité à ce que représentent les élections.
On parle d'écologie.
Oui, effectivement. Je crois personne. J'ai l'impression que tout est tellement exagéré. Par exemple, les chiffres de morts par le tabac. Vous ne croyez pas que c'est complètement n'importe quoi? C'est complètement n'importe quoi. Mais bon, on ne peut pas discuter. C'est pas quelqu'un comme moi qui peut en discuter, parce que j'y connais rien du tout. Mais franchement, enfin bon, ça c'est un exemple. Les risques atroces qu'on fait courir à la planète, on s'imagine que la planète n'est pas capable de courir des risques toute seule. Il y a déjà eu des réchauffements climatiques, il me semble. Bon, c'est possible qu'on y contribue, mais on n'est peut-être pas entièrement de notre faute. Mais il faut toujours que ce soit de notre faute. Et la faute de l'homme blanc, c'est pour ça que, voilà... Exactement ce que raconte Pascal Bruckner dans ses bouquins. D'ailleurs, c'est formidable, le sanglot de l'homme blanc comme titre.
Voilà, c'était en 2006. Isabelle Bastien-Duplex, quand vous entendez Claire Bretéché parlant ainsi de son travail, disons qu'elle n'a jamais pris l'actualité comme sujet, qu'elle préfère plutôt les ambiances, se tenir à distance de tout ce qui fait le bruit médiatique. Et pourtant, quand on voit ces dessins tels que vous les avez exposés au centre Beaubourg Pompidou, on voit bien que c'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit, puisqu'elle représente bien son époque, Claire Bretéché.
Oui, elle représente, comme elle dit elle-même, l'air du temps. Elle s'imprègne de l'actualité, elle dit involontairement, malgré elle, mais elle s'en imprègne tout de même et elle en fait des histoires sur un mode ou un autre, dans un contexte totalement différent, puisque ce sont toujours des scénettes. Oui. Ces histoires sont d'une part imprégnées de ce qui une forme d'actualité, même si ça n'est pas l'actualité immédiate, mais aussi de sans doute des sujets qui, elle, l'interpellaient et qui en ont fait une sorte d'interprète visionnaire sur certains thèmes.
Voilà, c'est plutôt ça qui vous intéressait pour cette exposition, plus que son style graphique, par exemple.
Alors, ce qui nous a intéressé, c'est que d'abord, c'est une très grande dessinatrice et artiste. Moi, j'ai découvert ses peintures et j'ai été éblouie par ses peintures. J'ai vraiment, j'ai beaucoup aimé tout au long de mon travail sur cette exposition. J'en ai découvert encore et c'est étonnant parce qu'elle se renouvelle beaucoup. Donc, son travail de peintre et de portraitiste. Puisqu'elle le peint et elle dessine presque exclusivement des portraits. Elle en a publié quatre recueils. Mais donc on a tout de même l'un des enjeux de l'exposition, c'était de montrer cet aspect-là sur une surface relativement réduite par rapport aux grandes expositions du sixième étage. Au centre Pompidou, mais là, c'était tout de même un petit peu juste pour montrer beaucoup de peintures. Donc, on en montre quelques-unes. Elles sont très, très bien mises en valeur par la scénographie, donc elles ont du poids. Et on a une petite partie aussi, analyse graphique, esthétique, qu'on a confié à Jean-Pierre Mercier, de la cité de
la bande dessinée d'Angoulême.
J'ai commencé par tout lire, toutes les planches. J'ai donc regardé ses peintures. J'ai vraiment pris connaissance de tout ce qui existait sur elle, y compris les émissions radio, les émissions télé. J'ai passé pas mal de temps à l'INA, à la BNF. J'ai vraiment, et je me suis aperçue d'ailleurs qu'il n'y a pas de monographie sur elle. J'ai été frappée parce qu'il y a quand même des livres sur des dessinateurs à peu près de sa stature et de sa génération. Il y en a. Il n'y en a pas sur elle. Il n'y a jamais eu de grande exposition, en tout cas d'exposition monographique et rétrospective.
Je suppose que c'est parce que Claire Bretéché a toujours refusé ce genre de dommages, de livres, d'exposition, non ?
Elle ne l'a pas cherché, mais un auteur, en tout cas, sans doute dû à son caractère réservé et modeste, à sa modestie. J'ai commencé par tout lire et effectivement, ce qui s'est imposé à moi, c'est de faire une analyse thématique, enfin en tout cas une présentation thématique de son travail. C'est aussi l'essence de la Bibliothèque publique d'information au Centre Pompidou. Donc, qui a été créé comme le centre en 77. Et il y a un esprit, la BPI est une bibliothèque vraiment tournée sur l'actualité. Mon travail a été de mettre ça en évidence. Et ce qui m'a surprise, c'est qu'il y a une sorte de permanence, une sorte elle est toujours d'actualité. Son travail n'est pas daté. ses plaisanteries, ses sujets, de les thèmes qu'elle aborde, ça n'est pas daté. Et c'est ce qui est, c'est ce que j'ai cherché à mettre en valeur. Et j'ai été donc aussi, j'ai travaillé avec scénographe, graphiste, une équipe donc artistique qui a vraiment trouvé aussi, qui s'est inspirée de cette du style, enfin en tout cas de couleurs vives, d'éléments qui font partie du style de Bretéché.
Et pour vous, elle représente quoi, Bretéché? Parce que vous dites, Isabelle Bastien-Duplex, que vous avez relu Bretéché, vous avez plongé, mais je suppose que vous avez aussi grandi avec Bretéché, ou pas?
Grandi, non, je l'ai lu un petit peu de loin. Je ne connaissais pas très très bien. Je connaissais bien sûr les Frustrés, Agrippine, Cellulite, les grands personnages. Mais par exemple, je ne connaissais pas Le Destin de Monique, qui pour moi est un album absolument essentiel, parce que en 83, elle aborde des thèmes qui font toujours aujourd'hui, qui sont des thèmes politiques de fait, puisqu'il est question de GPA, donc gestation pour autrui, de procréation médicalement assistée, de trafic d'embryons. Et je me suis aperçue là que l'album précédent dans Les Mères, 81 ou 82, elle mettait déjà en scène un couple d'hommes confrontés à la paternité et à la parentalité, et aussi à des questions de procréation en général. Donc j'ai souhaité mettre ça en valeur. Et c'est pour cela qu'on a présenté donc les planches. La troisième partie de l'exposition présente exclusivement des planches, donc de façon thématique. Et ce sont ces sujets-là qu'on a vraiment mis en avant.
Si vous êtes pas loin de Paris, parisien ou de passage à Paris, n'oubliez pas, cette exposition, c'est au Centre Pompidou, à Beaubourg donc, jusqu'au 8 février. Merci beaucoup Isabelle Bastien-Duplex d'être passée ce matin pour nous en parler.
Merci.
Et puis à noter aussi que la galerie Huberti Brain à Paris présentera elle aussi, au mois de décembre, une exposition vente dédiée au travail de Claire Bretéché, très beau catalogue du Centre Pompidou, et d'Argo qui sort quelques morceaux choisis de Bretéché. Merci beaucoup. C'était Un autre jour est possible, tous les matins à 6h ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast disponible sur franceculture.fr. Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet m'ont aidé ce matin comme tous les jours. Émission réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Bernard Lagnel. On se retrouve demain à la même heure, en première partie avec l'historien Nikita Rich pour parler de l'histoire du chocolat. Et en deuxième partie, je serai avec Lamia Ziadeh pour son très beau livre édité chez POL, « Aux nuits, aux mes yeux ». Dans un instant, l'actualité, le décryptage des informations par Guillaume Erner et l'équipe des matins. Bonne matinée et à demain.